Nous allons reprendre pour cette seconde partie et donc pour le dernier séminaire. Aujourd'hui, nous allons écouter Jean-Christophe Bailly, qui est professeur à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois. Alors j'ai pensé à l'inviter pour deux raisons. La première, c'est que Baudelaire n'aimait pas la nature. C'est ces légumes sanctifiés dont je vous avais parlé un jour. C'est la première raison, mais Jean-Christophe Bailly a publié l'année dernière un très beau livre qui s'appelle « Le dépaysement, voyages en France » et qui est un tour du paysage français. Mais la seconde raison, c'est que ce livre m'a rappelé qu'il y a longtemps déjà, il a une œuvre immense et je ne vais pas l'énumérer ici, mais qu'il y a longtemps déjà, il a une œuvre de critique, il a une œuvre d'écrivain également, de poète et de dramaturge. La seconde raison, c'est que je me souvenais qu'il y a longtemps déjà, il avait publié une belle introduction des écrits sur l'art de Baudelaire il y a 25 ans à peu près, dans la collection 10-18, si mes souvenirs sont bons. C'est un livre que j'avais relu en réunissant ce qui pouvait m'intéresser pour préparer ce cours. J'étais retombé sur cette introduction et il y a donc la conjonction de ce beau livre sur le paysage de l'an dernier et 25 ans plus tôt d'une réflexion sur Baudelaire et les écrits sur l'art. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité et à ma surprise, il n'a pas refusé de venir. Il aurait pu me dire, Baudelaire, c'est très loin de moi maintenant, cet homme qui n'aimait pas la nature, mais non, il a accepté de venir. Il va nous parler de Baudelaire photographe, avec un point d'interrogation, je vois, hypothèse et paradoxe. Vous avez la parole.
Merci. Juste une petite précision. Dans cette école de paysage, au moins les trois quarts des approches sont liées au paysage urbain, malgré tout. Et il se trouve aussi que je vais assez souvent à l'école de photographie d'Arles et que de plus en plus, et ça faisait partie aussi des choses que je recoupais dans mon livre Le dépaysement, la photographie ou le photographique, comme on peut oser dire, compte pour moi. Donc, dans cette mesure même, il est très possible que certaines des choses que je vais dire ou certaines des références que je vais donner aient déjà été évoquées ici. Je ne pense pas que ce soit grave, puisqu'il est de la nature d'un séminaire de brasser et de travailler avec des leitmotivs. Donc Baudelaire, photographe. Le but d'un tel intitulé n'est ni la provocation ni le paradoxe. La prise de position de Baudelaire sur la photographie est connue, et l'on peinerait à trouver dans le fameux chapitre du Salon de 1859 qui lui est consacré, on peinerait à trouver des éléments critiques, ne serait-ce que quelques petits grains de sable permettant une réévaluation. Par contre, et cela a déjà été remarqué, on trouve dans l'œuvre et dans la vie de Baudelaire plusieurs traits qui indiquent, et assez nettement, que le diagnostic établi par le texte de 1859 n'a pas empêché son auteur de prêter à la photographie une attention assez grande. Ceci entendu au sens métaphorique, mon propos sera dans un premier temps de retrouver ou de rappeler ces traits ou ces écarts et à partir d'eux d'imaginer la fiction d'un Baudelaire photographe. Ceci entendu au sens métaphorique, où l'on peut parler d'un Baudelaire peintre, à cette différence près que la métaphore picturale vient d'elle-même, alors que celle qui en passe par la photographie semble a priori forcée. Pourtant, il m'a semblé qu'un tel forçage et ce qu'il pouvait révéler d'une tendance du poète n'était pas sans intérêt. En effet, à travers la fiction d'un Baudelaire qui aurait su ou pu comprendre la vibration spectrale de la photographie et l'intégrer à la manne du stupéfiant image, c'est toute la question de la modernité et du rapport ambigu de Baudelaire à sa propre invention de ce concept qui se trouve revisité. Avant tout, et cela passe outre le jugement de Baudelaire, il convient de rappeler brièvement le caractère irréversible et radical de la coupure que la photographie a introduit dans les modes de la représentation figurée. Avec le chemin de fer, dont elle est quasi l'exacte contemporaine, 1825, première ligne de voyageurs en Angleterre, 1827, vue prise depuis la fenêtre de sa maison de Saint-Loup de Varennes par Niepce, la photographie est sans doute l'invention la plus caractéristique de l'âge industriel. Non seulement elle en provient, mais elle le signe. Et c'est à ce titre aussi, on s'en souvient, que Baudelaire la récuse. Et il y a pour nous aujourd'hui, qui avons la possibilité d'un recul pour en considérer la venue, un véritable saut qualitatif entre ce dont nous avons une image, une photo, et ce que nous ne pouvons connaître qu'autrement à travers la peinture ou le dessin. C'est sans doute à l'endroit des visages, tels qu'ils nous sont livrés par les portraits, que cette différence est la plus troublante. Tout autre, en effet, est le rapport que nous entretenons avec ceux dont nous avons une ou plusieurs photographies, Nerval, par exemple, ou Baudelaire, et ceux pour lesquels nous ne disposons pas d'un tel document. Beethoven, par exemple, et si je pense à lui, c'est parce qu'il est mort l'année même où Niepce a pris la première photo. Ce qui entre en jeu ici, ce n'est évidemment pas la familiarité avec laquelle nous pouvons entrer envers une œuvre ou un homme, mais c'est quelque chose d'autre et de singulier, qui est comme une ombre portée, une imprégnation. C'est bien sûr la qualité indicielle du photographique, c'est cette faculté de saisie à laquelle nous sommes habitués, mais qui sidéra et qui reste spectaculaire si l'on considère attentivement ce qu'elle nous livre. Non, la vérité, certes, mais tout au moins quelque chose de trouble et de profond, remonté en surface et qui se voit dans le regard, d'abord dans le regard de l'être photographié, mais aussi dans tel détail, un pli de pantalon, une mèche, le grain d'un tissu, tout ce qui, échappant à l'apparat et même à la pose, est venu se déposer dans l'image comme une poussière inexorablement fixée, soit encore, et je cite Benjamin, évoquant d'anciens portraits photographiques contemporains de l'époque de Baudelaire, soit cette petite étincelle de hasard d'ici et de maintenant, grâce à laquelle le réel a, pour ainsi dire, brûlé un trou dans l'image. Et ce qui est certain, c'est que Baudelaire, plus que Nerval et plus que Hugo même, malgré certaines apparitions parfois saisissantes, on en a vu une tout à l'heure dans la peinture, appartient déjà tout entier à cet âge qu'il faut appeler l'âge photographique. Je crois même que l'on peut dire qu'il est le tout premier en France et dans la littérature européenne à nous parvenir ainsi, accompagné avec une telle fidélité par son fantôme argentique. Sans doute peut-on attribuer cela à son allure et à ce qu'elle a de si étonnamment photogénique. Mais il reste qu'il y a ce paradoxe d'un homme connu pour avoir renvoyé la photographie aux basses œuvres et qui, en même temps, lui a confié son visage avec une sorte de constance inquiète et extraordinairement attentive. C'est chacun des portraits photographiques de Baudelaire qu'il faudrait pouvoir étudier et scruter, mais dans aucun d'entre eux, et au nombre de 13, à ma connaissance en tout cas, au nombre de 13, ils sont finalement assez nombreux, en tout cas pour l'époque, dans aucun d'entre eux, on ne trouverait une pose nonchalante ou indifférente. Au contraire, tout semble montrer que le poète a lui-même activement participé au réglage de sa présence, donnant même l'impression d'avoir eu une sorte de prescience de son devenir image. Dans cette attitude qu'on lui voit, quand bien même il aurait l'air d'avoir été saisi en passant, comme sur une photo de Nadar un peu floue et où il est encore jeune, elle a été prise en 1854, alors que l'atelier de Nadar était encore rue Saint-Lazare. Cette attitude, il la fabrique, et de l'image qui résulte, il est le comparse actif, bien plus que le suppôt. D'autant plus qu'à l'époque, du fait des conditions techniques de prise de vue, il y avait une durée et une épaisseur de la prise, un seul cliché valant pour séance. Dans ce rapport à son image, au moment même où elle est en train d'être faite, c'est évidemment le miroir devant lequel le dandy doit vivre et dormir, de la célèbre remarque de mon cœur mis à nu qui vient à l'esprit. Via cette fonction de supplément au miroir, la photographie se déplace hors de la sphère proprement esthétique où Baudelaire, on le sait, ne l'admettra pas, mais il reste qu'elle vient jouer un rôle de premier plan dans le rapport du poète à lui-même et tous les portraits, d'ailleurs tous débarrassés de cet attirail de studio qui encombrait la plus grande partie de la production des photographes de métier, tous les portraits sont imprégnés de cette insistance au sein de laquelle le regard, comme le déni de tout sourire, déni appuyé sur les lèvres si minces, semble pouvoir fixer non seulement une idée de soi-même, mais aussi un statut hautain de l'image. Et malgré la complicité de Nadar, c'est à nouveau une photo de lui, c'est peut-être dans la plus célèbre des photos de Karja, datée de 1862, que cette insistance du regard, cohabitant avec une insondable tristesse, vient produire devant nous comme une sorte d'onde stationnaire dont nous ne pouvons pas un seul instant penser que le poète, en tant qu'il se sait photographier, n'est pas responsable, ce qui n'enlève rien, d'ailleurs, au talent de Karja. À ce dossier de l'attitude réelle de Baudelaire devant la photographie en acte, on pourrait ajouter des traits épars, assez tardifs, et témoignant peut-être comme tel d'une évolution ou d'un infléchissement. Par exemple, la commande qu'il fait à Karja de plusieurs épreuves de son portrait dit aux gravures, ou encore cette recommandation souvent citée qu'il fait à sa mère à propos d'un portrait qu'il souhaiterait avoir d'elle et qu'il voudrait qu'elle fasse faire au Havre où, dit-il, il y a un excellent photographe. Les propos qu'il tient alors sont tout de même très clairs et montrent, s'il en était besoin, qu'il parle en connaisseur. Non seulement il dit à Madame Aupic qu'il faudrait qu'il soit lui-même présent parce qu'elle ne s'y connaît pas, mais encore va-t-il jusqu'à définir le style de l'image qu'il voudrait voir, un portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin. Ici, la servilité de l'industrie photographique, refuge, disait-il, de tous les peintres manqués, semble bel et bien oubliée, et si c'est d'un outil que parle encore Baudelaire, on voit qu'il a appris à le connaître et à en évaluer les effets. Mais c'est dans l'œuvre elle-même que l'attention de Baudelaire au rendu photographique se déploie avec le plus de conséquences, même si c'est d'une façon étrange, voilée, peut-être, ou sans doute en partie inconsciente. Dans une étude approfondie parue en 1999 dans la revue Études photographiques, Jérôme Tello avait repris et déplié l'idée selon laquelle le rêve d'un curieux, avant-dernier poème des fleurs du mal, pourrait être la transcription cryptée d'une séance de pose. Déchiffré selon ce crible, le poème, dédié en effet à Nadar, à travers ses seules initiales en fait, s'entr'ouvre et, comme le dit l'auteur de l'étude, se développe. Son mystère, qui est grand, venant s'appuyer sur la structure temporelle d'une séance conçue comme une sorte de césure à la fois violente et décevante. Je ne reviendrai pas sur cette analyse troublante et sans doute vraie en son fond, ceci dans la mesure même où elle ne fait que prolonger les remarques que l'on peut faire à partir des portraits eux-mêmes sur l'expérience que Baudelaire a eue de la photographie en tant que sujet photographié. Mais c'est d'un autre côté encore que je voudrais aller, soit de ce côté où un Baudelaire, imprégné par le ton photographique et par les propriétés mêmes de l'image photographique, devient imaginable. Il est possible de repérer dans l'œuvre, de façon dispersée mais récurrente, toute une série de traits qui marquent que cette imprégnation était effective et qu'il y a chez lui, de façon sans doute discontinue, une métaphore du photographique. Cela peut aller de la simple reprise d'un terme comme « chambre noire », quoique ce terme précède l'existence de la photographie, c'est dans « Morale d'un joujou », cela peut aller de cela à des équivalences entre la description de certaines surfaces, les miroirs, les fenêtres, et ce qu'est pour nous la surface photographique. Cela peut toucher le détail d'un récit, ainsi la collection de portraits d'internes et d'externes des hôpitaux de Mademoiselle Bistoury, dont il s'avère que ce sont bel et bien des photos, et elle déploya en éventail une masse d'images photographiques, est-il écrit, ou encore la description d'un caractère, ainsi ce qui est dit dans « Portrait de maîtresse », ce trait misogyne poème en prose, qui est quasi une petite nouvelle, lorsque le dernier des quatre amants qui y parlent tour à tour décrit son amour comme, je cite, « un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir, vertigineusement monotone. Surface dans laquelle nous ne pouvons nous empêcher de voir une parenté avec le métal du daguerréotype tel que Baudelaire a pu le percevoir. Souvenons-nous en effet que dans ce récit, ce que l'amant décrit, c'est un amour froid, enlisé dans une sorte de perfection impavide, où la femme devenue, dit-il, un spectre inséparable, l'empêche littéralement de vivre. Or, cet ennui d'un dédoublement spéculaire sans fantaisie, c'est la substance même du reproche que Baudelaire adresse à la photographie dans le texte du Salon de 1859 et le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire auquel il dit que la photographie ne doit pas toucher ni ne peut atteindre, c'est celui-là même dont, dans l'histoire des amants, la maîtresse trop fidèle ferme l'accès. Pourtant, il semble bien qu'entre ce flou correcteur d'exactitude qu'il vantait à sa mère et le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire, ou pour être plus net encore, qu'entre la substance du photographique et la reine des facultés, le passage pourrait se faire et la glissade être facile et même entraînante. Or, elle ne l'est pas. Et cette pente qu'il nous est si aisée et si tentant d'imaginer devant certaines photographies contemporaines du poète, non seulement cette pente, il ne la suit pas, mais tout se passe comme s'il ne la voyait pas. Il n'est pas difficile de relier le refus de la photographie affiché dans le Salon de 1859 au schème simultanément anti-progressiste, anti-bourgeois et anti-démocratique de la pensée de Baudelaire. C'est même là ce qui tombe sous le sens. Mais il reste que l'assimilation pure et simple de la photographie à un art tout à la fois industriel et incapable d'idées, un art borné à l'apparence et à la reproduction plate et sans rêve, devient presque incompréhensible si l'on se reporte d'une part à l'art délié que Baudelaire imagine dans Le peintre de la vie moderne, et d'autre part, si l'on essaye, et c'est ce que je voudrais tenter, de regarder certaines photographies faites en son temps, mais peut-être pas sous ses yeux, et là aussi, bien sûr, est la question. Et cela, en utilisant comme filtre, justement, pour regarder ces photographies, ce rêve d'art délié qui, sur les pas de Constantin Guis, se nimbe au-delà d'eux d'une couleur splinétique dont les tons descendus se retrouvent partout dans les fleurs du mal, comme dans les poèmes en prose. Le rêve, ou plutôt la solution rêvée, sur ce versant qui imagine un Baudelaire non seulement inventeur du concept de modernité, mais apte à la saisir là où elle est pleinement active, le rêve, ce serait que Constantin Guis ait été un photographe. On en a parlé juste avant, il n'en est rien bien sûr, mais rappelons-le encore une fois, après tant d'autres, le peintre de la vie moderne n'est pas non plus un peintre. Et je ne vais faire ici que reprendre à ma manière ce qui vient d'être dit par M. Compagnon. Ces tableaux, ce sont ces dessins de petit format, rapides, faits de chic, aux couleurs lavées, pris sur le vif, dans la rue, les bordels, les promenades, les théâtres et les champs de bataille. Autrement dit, celui dont Baudelaire s'empare pour définir le trait de l'art qu'il appelle, c'est un dessinateur flâneur et, dirions-nous aujourd'hui, un reporter. En tout cas, quelqu'un qui va vite et qui s'arrête vite. Quelqu'un, relisons-le dans les termes mêmes de Baudelaire, quelqu'un qui a compris qu'il y a dans la vie triviale, dans la métamorphose journalière des choses extérieures, un mouvement rapide qui commande à l'artiste une égale vélocité d'exécution. Son domaine, le domaine de l'artiste, le domaine de Guis, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, mais tout cela ou rien que cela, ce très peu-là, il le saisit, et dans ce mouvement même, il se saisit aussi, en la rendant pour ainsi dire palpable, de l'estampille que le temps imprime à nos sensations. L'estampille que le temps imprime à nos sensations, extraordinaire définition, qui autour du temps, mot souligné et mis en italique par Baudelaire, qui autour du temps répète le motif de l'impression et de l'estampage, soit de ce qu'en vérité la photographie fait ou fera en propre, elle qui est d'abord une pure impression et un estampage sans profondeur, un effleurement. cette étonnante contiguïté entre les formules par lesquelles Baudelaire définit l'art qu'il devine et voudrait voir, et ce qui, pour nous, caractérise en propre l'opération photographique, nous pouvons la développer encore. Car lorsque Baudelaire recopie ces mots écrits par Guise sur un croquis guerrier, « taken on the spot », nous nous apercevons qu'entre l'estampille que le temps imprime et le « taken on the spot », le pris sur le vif et sur place de ce dessin, ce qu'il a en vue, ce n'est rien d'autre que ce que nous appelons, nous, un instantané. Et l'on peut aller plus loin encore dans le profilage de cette parenté en citant cet autre passage du peintre de la vie moderne dans lequel Baudelaire définit ce qu'il appelle l'exécution idéale. Je le cite, « Pour que jamais les ordres de l'esprit ne soient altérés par les hésitations de la main, pour que finalement l'exécution idéale, devienne aussi inconsciente, aussi coulante que l'est la digestion pour le cerveau de l'homme bien portant. » Les hésitations de la main, c'est presque mot pour mot l'argument développé par William Henry Fox Talbot lorsqu'en 1844, dans le Pencil of Nature, il expliquait, qui est le premier livre réunissant des photographies qui n'ait jamais été publié, puisque Talbot, c'est lui qui a mis au point le système négatif-positif avec tirage sur papier. Lorsqu'il expliquait, donc, William Henry Fox Talbot, que sa découverte de la photographie lui avait permis de remplacer le crayon déloyal, par un outil plus fidèle. Quant à l'exécution idéale elle-même, telle que Baudelaire l'a définie, et à son caractère avant tout passif et même inconscient, le mot « inconscient » figure, il est inutile de souligner à quel point elle semble préparer, et même de façon quasi parfaite, le terrain de cette forme ultra-passive d'impression dans laquelle l'idée photographique reconnut son signe et son heure. Mais voilà, ce que Baudelaire put connaître de la photographie procédait pour l'essentiel de modes d'obtention de l'image différents. Même s'il semble qu'il ait eu le temps de s'apercevoir que quelque chose d'autre s'était substitué à l'idée de pur calque qui, décliné sur un mode positiviste, résumait l'essence du daguerréotype, il n'a toutefois pas pu être confronté encore à des procédés techniques qui seraient venus sous ses yeux réaliser en acte cette vélocité d'exécution dont, via Guise, il rêva. La photographie, telle qu'elle s'exerçait en son temps et telle qu'il l'a connue en fréquentant les studios de Nadar ou de Karja au moins, était tout sauf véloce, et l'on sait qu'il faudra attendre encore longtemps pour parvenir à la légèreté et au caractère portatif qui en sont devenus les marques. Pourtant, le hiatus entre Baudelaire et la photographie ne repose pas que sur des bases techniques. Benjamin a raison lorsqu'il souligne que le public moderne et la photographie est aussi à considérer, je le cite, Benjamin, comme un rejet cinglant de toutes les impostures de la photographie artistique. Non seulement la photographie de l'époque n'était pas véloce, mais elle fut aussi, c'est vrai, académique et pesante. Ce que Baudelaire assaisonne de formules cruelles exista, et il était en un sens fatal que ce qu'il pouvait y avoir de plus pauvre dans l'art de son temps, de plus soumis, de moins divin, comme il le dit, ait cherché à puiser aussitôt dans la ressource inespérée d'une ressemblance fournie gratis. Pourtant, le mouvement en direction d'un usage de la photographie échappant à ce caractère servile était déjà largement esquissé à l'époque. Et l'intuition que cela rendait possible et pensable une extension de l'imaginaire aurait très bien pu surgir. Or, elle n'est pas venue. Et nous ne pouvons que constater chez Baudelaire, à cet endroit, une sorte d'aveuglement. Autant il serait absurde et arrogant de le lui reprocher, autant il est naturel, selon moi, de s'en attrister. Non seulement une telle lucidité eût été merveilleuse et de nature à rendre plus vive et plus nette la pente suivie par Baudelaire vers la modernité, mais encore le recul nous permet-il de regarder un certain nombre de photographies contemporaines du spleen de Paris exactement comme si elles en étaient les illustrations les plus appropriées. Et je dois dire que l'étonnement qui vient dans l'étroitesse de cet angle est très grand. Ce qu'il faudrait savoir, C'est si Baudelaire a vu ou non ces images, s'il lui a été donné ou non de les considérer, puis de les écarter peut-être d'un revers de la main. Tout laisse penser que non. L'on peut être sûr, par exemple, que la voie ouverte par Fox Talbot, différente en son essence de celle initiée par Daguerre, est beaucoup plus ouverte qu'elle à la dimension imaginaire de la photographie. Baudelaire ne l'a pas connue. Rien dans la circulation encore restreinte des images liées à la naissance de la photographie ne le laissant supposer. Pour ce qui est des images faites en France, et qu'il aurait pu voir, et qu'il a sans doute vu pour certaines d'entre elles, la mission héliographique, qui est un événement quasi institutionnel de la formation de cet art, a été initiée, rappelons-le, dès 1851. Pour les images faites en France, demeure ce que l'on pourrait appeler, malgré tout, l'énigme de leur invisibilité. Ce que je propose, c'est d'en regarder quelques-unes, sans doute dûment sélectionnées au sein d'une masse déjà assez considérable d'images, et avec elles, de creuser dans ce qu'il a au fond, je pèse mes mots, de tragique, de triste, le hiatus qui les a séparés du regard de Baudelaire, un peu comme est tragique et triste avant tout pour l'histoire de la pensée, l'évitement final de Manet. En disant cela, j'ai presque la sensation de voir le redoutable compliment que Baudelaire lui adressa dans la célèbre lettre déjà évoquée tout à l'heure du 11 mai 1865, vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art, de voir glisser Manet vers ses vues de Paris en noir et blanc, dont les photographes multipliaient les exemples. La photographie auxiliaire de la décrépitude, au sens même où elle a été définie tout à l'heure, c'est bien là ce qui se dessine. Or, c'est pourtant le contraire que l'on aurait souhaité, tant envers Manet qu'envers ces images, qui sont absolument, pour nous, celles du Paris de Baudelaire, mais qui, pour lui, s'il les a vues, ne furent peut-être rien. Je commencerai par une photo de Marville, prise en 1867-1868, soit au moment même où Baudelaire mourait. De façon simple, avec ses fiacres noirs en attente, ces fiacres tellement semblables à ceux des dessins de Guisse et que Baudelaire donc ne prendra plus, avec ses stores, ses devantures et ses écritures répandues sur les façades, cette vue de la rue de la Bourse ne nous tend rien d'autre qu'une occurrence possible entre tant d'autres d'un Paris du temps de Baudelaire. Mais c'est au fond déjà beaucoup que de pouvoir avoir cela justement sous les yeux, que nous n'avons pas du tout, par exemple, pour le Paris de Rousseau ou de Restif, et très peu encore, pour le Paris de Balzac. Une image plénière de ce qui fut, et qui, dans sa sobriété documentaire, nous montre l'estampille du temps, ce qui revient aussi à dire, via la visibilité du temps arrêté, celle du temps écoulé depuis, avec ce qui est demeuré et ce qui a disparu, la forme de la ville, telle qu'au-delà de la vie d'un mortel, malgré les transformations, elle perdure, soit encore ce qui nous rend ou nous renvoie, le décor même d'une foule absente, comme une sorte de rêve que nous ferions ou que nous aurions fait. Je poursuivrai avec un autre paysage parisien. Ah, excusez-moi. Voilà. En deux versions, c'est bien drôle. Je poursuivrai avec un autre paysage parisien en deux versions, positif et négatif, œuvre de Gustave Le Gray, datée de 1855-1856. Bien que nous soyons 10 ans plus tôt qu'avec la vue de Marville, l'intentionnalité artistique est ici beaucoup plus déclarée, mais sans qu'elle atteigne du tout, je crois, à l'abomination artistique que Baudelaire voulait écarter de la chambre double. Au contraire même, dirais-je, et comment dans cette vue si extraordinairement immobile dans laquelle l'eau de la Seine semble transmuée en un pur miroir, comment nous empêcher de voir une exacte semblance avec ce que le rêve baudelairien de la ville peut avoir eu de plus minéral ? Et comment comprendre aussi que ce parfait emboutissage de la féerie et du document ait pu ne pas être vu et compris en son temps ? Et si j'ajoute à la vue positive le passage par l'état antérieur du négatif sur vert, avec sa distension nocturne et son éclat nacré, qui sont comme une extase de l'argentique. Comment ne pas penser aussi devant cela à la nuit noire et blanche dans laquelle Nerval disparut, l'année même de cette photo d'ailleurs. C'est encore pour souligner tout ce cas d'incompréhensible retard de la réception de la photographie dans le champ des opérations imaginaires. Champ où, à mon avis, figurent déjà en plein elles aussi les marines qui ont rendu le grès célèbre, telle celle-ci, datée exactement de 1856, et devant laquelle, elles étaient célèbres à leur époque, hein, et devant laquelle il est impossible de ne pas penser à la mer, si monstrueusement séduisante et si infiniment variée dans son effrayante simplicité, de déjà l'un des poèmes en prose. Non, comme pourrait le faire peut-être à part soi n'importe quelle marine peinte ou photographiée, mais bien parce qu'il y a une parenté interne entre la mer de l'homme libre baudelairien et cette lente émulsion de matière sombre et raflée de lumière qui, sur l'image de Le Gray, est venue cerner un bateau solitaire, lui aussi estampillé par le temps. Toutefois, c'est sans doute encore en direction d'une autre image et d'un tout autre type que nous devrions nous transporter pour aller jusqu'au bout, peut-être, de ce cas de vertigineux, ce hiatus entre la vision baudelairienne et ce qui nous semble être quasi sa projection, mais sans qu'elle parvienne à la voir. Il s'agit cette fois d'une image qui fut célèbre et célébrée en son temps. Son temps, c'est 1851. On vit en effet en elle un accomplissement de la scène de genre. Elle l'est aujourd'hui encore davantage célèbre, cette image, dans la mesure où elle est un jalon sur la route de l'instantané et elle est le premier pli entièrement pris sur celle du style documentaire. Je le rappelle juste en passant, même si c'est un fait bien connu de l'histoire de la photographie, ces ramoneurs de Charles Nègre ne sont pas un véritable instantané. Quand bien même diminué par rapport au tout début de la photographie, le temps de pose que nécessitait la pratique du calotype, une seconde environ encore dans le cas de Charles Nègre, était encore trop important pour autoriser une prise véritablement on the spot, sur le vif. Aussi est-ce à une illusion posée du mouvement que nous avons à faire avec cette image, mais cela, à mon sens, ne rend que plus manifeste la tension intime du photographique vers l'instantanéité. Alors même qu'elle n'avait pas encore les moyens de le faire surgir comme tel, la photographie reconnut dans l'instantané sa finalité la plus propre. Et ce que montre la ruse de Charles Nègre, c'est qu'elle la connaît et la prévoit. Et c'est aussi que dès la première obtention d'une trace lumineuse sur une surface sensible, le chemin était ouvert pour qu'elle soit consciente de pouvoir devenir cette coupe dans le temps qu'elle est en effet devenue de façon si saisissante. Or, ce n'est pas un hasard si nous rencontrons ici le « taken on the spot » de Constantin Guis qui plaisait tant à Baudelaire, et si nous rencontrons aussi, cheminant de la sorte avec l'immobilité, la prescience du cinéma, en tant qu'il n'est rien d'autre que la mise en route de l'instantané, rien d'autre que de l'instantané profilé. Et ici, je le dis en passant, le film que l'on peut se passer, et même se passer en boucle, c'est l'extraordinaire court-métrage qu'est « À une passante ». Il va de soi pourtant que ce n'est pas uniquement sur le registre du style ou de la temporalité que cette image des ramoneurs marchant le long des quais de la Seine sur le fond merveilleusement flouté des immeubles de l'autre rive nous fait penser à Baudelaire avec tant d'évidence. Mais que c'est aussi du fait de ce qui y est montré, de quelque manière qu'on le nomme, la misère ou la vie, la vitalité de la misère, le monde de la pauvreté. Ce qui est rendu présent par ce poème photographique de Charles Nègre nous permet d'abord de laisser venir vers nous, fût-elle hardie, la notion d'un style documentaire de Baudelaire, soit ce mouvement même qui le conduisit à écrire des textes comme « Le joujou du pauvre » ou « Les bons chiens » et qui est à placer du côté de son admiration pour Daumier, Daumier dont la blanchisseuse qui est au musée d'Orsay a d'ailleurs l'air de gravir un escalier donnant sur le quai même où passent les ramoneurs. Mouvement qu'il n'est évidemment pas question de désolidariser de la propension visionnaire, mais qui devrait plutôt en être considéré comme le foyer. Avec cette image des ramoneurs longeant un quai que Baudelaire de surcroît a dû tant de fois à parcourir, c'est presque comme si nous entendions d'avance la scansion d'un poème ou comme si un autre poème en prose s'engageait. Et il faut ajouter ici, je ne le développerai pas, le lien qui se crée, se développe et s'imagine tout au long de l'histoire des genres, au XIXe siècle puis au XXe siècle, entre prose et photographie, lien qui mériterait à lui seul d'être étudié et que le spleen de Paris en serait évidemment le nouage initial. Avant de refermer ce dossier à peine entrouvert, il faut encore peut-être jeter un regard du côté même de ce que Baudelaire a dit détester, non pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, comme ceux, et ils sont nombreux, qui tentent de lui inventer une fascination pour Ingres, mais pour s'étonner une nouvelle fois de notre décalage à nous avec sa position. Je prendrai pour ce faire un daguerréotype anonyme daté de 1848, dont il n'y a aucune raison de penser qu'il ait pu être vu par le poète, mais qui se signale entre autres, entre tant d'autres, par la facilité avec laquelle, derrière son évidence représentative, sa platitude si l'on veut, l'évidence avec laquelle il laisse monter en lui des contenus latents qui ouvrent à la pensée le chemin d'une rêverie longue et consistante. Dans ce cas, la gémellité bien sûr, mais aussi les regards conjugués et les doigts qui se tiennent, l'opposition des lèvres des deux sœurs si dissemblables, la folie lisse de leur coiffure, et j'en passe. Rien d'exceptionnel pourtant, rien qui en tout cas ne puisse être rapporté à la violente douceur de la prise photographique de ces temps lointains. Or cela, cette immersion du sujet photographique dans un bain fantomal de traits inconscients et splendidement indiciels, qui pour Benjamin déjà et a fortiori pour nous relève de l'évidence, Baudelaire ne l'a pas vu et sans doute lui, pas plus que ses contemporains, ne pouvait le voir. Deux choses ici sont à relever qui peuvent expliquer en partie ce décalage, cette impossibilité. Je ne pourrais que les esquisser en espérant qu'elles ouvrent des chemins, des quais que l'on pourrait longer en traînant le pas. La première a trait au neuf, à la nouveauté comme telle, la seconde au noir et blanc, ou, cela revient au même, à l'absence de couleur. On devrait s'en souvenir ou y penser constamment. La forme de la ville qu'il avait constamment sous les yeux, pour Baudelaire, n'était pas seulement changeante, elle produisait constamment de la nouveauté, elle était neuve. Que cela donne, au passage, dans les yeux des pauvres d'ailleurs, le soir, un peu fatigué, vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf qui formait le coin d'un boulevard neuf, ou que cela soit apparié aux couleurs d'un cabaret, au retrait d'une ruelle ou à la forme d'un pont, la nouveauté, le neuf, était partout sous ses pas, infiniment plus que pour nous de nos jours, sous ses pas devant lui, et ce que nous voyons, nous, par exemple, dans une rue semblable à celle passant devant la Bourse et photographiée par Marville, comme une image intégralement comprise, admise, cela n'était pour lui qu'une manifestation récente, neuve, de cette modernité objective dont il revendiqua certes la puissance d'action, mais qui sans doute, redoublée par une forme d'image elle aussi et plus encore objectivement moderne, lui devenait insaisissable et comme noyée dans le gris. Le gris, la grisaille, ce serait peut-être par là que tout finirait. On devrait s'en souvenir ou y penser constamment, la photographie surgit noire et blanche. Et ce qui, pour nous, a quasiment pris avec la distance la valeur d'un destin, au point qu'il fut même difficile pendant longtemps, même si c'est fait maintenant, d'accorder à la photographie en couleur la vertu fantomale et toujours un peu tremblée de la doublure noir et blanc du réel. Ce qui, pour nous donc, aura fonctionné comme le film même d'une imprégnation pensive, aura pu être vécu au commencement comme un manque, ou plus exactement, comme ce qui révélait ou même exacerbait la platitude de la vertu reproductive mécanisée. Nul, à l'époque, il faut le remarquer, ne se plaint de l'absence de couleur de la photographie, et Baudelaire pas plus qu'un autre. D'abord, sans doute, parce qu'une image photographique en couleur était inimaginable et ne se présentait pas à l'esprit. Mais malgré tout, et envers l'extraordinaire coloriste que fut Baudelaire, plus qu'envers quiconque, il est possible, il est même certain, que cette absence ait fonctionné comme une lacune, tout se passant au fond comme si la photographie avait été un peu la consoeur du mauvais vitrier. À celui qui, dans la chambre là-haut, voulait voir la vie en beau et qui demandait, je cite, des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis, la photographie ne pouvait proposer qu'une transparence sans contenu et le jeu contrasté des ombres, autrement dit, une chute dans le réel. Que cette chute ait correspondu au mouvement même par lequel la pensée de Baudelaire nous entraîne, et justement parce que dans cette chute ressurgit l'aura qu'on avait cru perdre, c'est ce que Baudelaire lui-même n'aura pas senti, mais c'est aussi ce que, grâce à lui, nous percevons si nettement, y compris dans cette image étonnante par laquelle, à la fin du mauvais vitrier, justement, il décrit l'effet du jet bien ajusté d'un petit pot de fleurs lancé depuis un balcon et venant briser le chargement de l'ouvrier. Le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. C'est là ce qui est dit. Et si de cette image nous enlevons la donnée sonore, c'est pour en obtenir aussitôt une autre qui pourrait, avec une exactitude surprenante, caractériser l'être même de l'interruption photographique, par conséquent et par avance, comme dans un flash, un palais de cristal crevé par la foudre. Je vous remercie.